Alors, ce matin, la prédication, je l'ai intitulée « Avec Jésus, c'est tout ou rien ». On a de la chance dans l'Église d'avoir une équipe de responsables avec qui on partage. J'ai beaucoup de liberté dans le choix des prédications, dans ce que je fais, mais j'aime bien en discuter avec eux. Alors, on choisit des séries, je fais des propositions, on en discute, on choisit. Et là, on entre deux séries. On a terminé une série et puis on aura une autre qui va commencer au mois de septembre. Puis j'ai pris un ou deux sujets, je dis au conseil, mais est-ce qu'il y a un sujet, vous pensez, que ce serait bien d'aborder ? Et puis, un des sujets qui a émergé, c'est de dire, mais en fait, la vie chrétienne, ce n'est pas juste le dimanche matin, mais c'est quelque chose qui vient dans le quotidien, qui vient dans la semaine. C'est un engagement qui est en fait de tout notre être à la suite de Jésus. Alors, c'est quelque chose qui ressort assez fortement de la Bible. Et puis, en réfléchissant à ce thème, j'ai pensé à ce texte de Luc, où c'est Jésus qui parle. Je vous propose qu'on lise le texte et puis après qu'on essaye de s'arrêter pour voir comment ce texte peut nous interpeller dans notre quotidien, qu'on soit en recherche de Jésus, qu'on soit dans le début de notre marche chrétienne ou qu'on soit de vieux routards de la foi. C'est en Luc 9, versets 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, « je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » C'est un texte, à chaque fois que je le lis, qui m'interpelle, parce que bon, c'est quand même assez saisissant l'engagement que Jésus demande aux personnes qui l'ont interpellé ou qui l'interpellent. Pendant qu'ils étaient en chemin, on a un contexte qui est posé, Jésus est en chemin. En fait, la première partie de l'évangile de Luc se passe en Galilée, où Jésus va faire des choses absolument incroyables. Il accomplit des guérisons, il chasse des démons, il fait des miracles divers et variés, et il enseigne comme personne n'enseigne. Alors, forcément, le succès est assuré et il y a toutes les foules qui vont vers lui et qui vont l'écouter. Et puis, un tout petit peu avant notre passage, Jésus fait une déclaration assez surprenante. Il est en train de parler à ses disciples et il leur demande « Et vous ? Et d'après vous, qui suis-je ? » leur demanda-t-il. Pierre répondit « Le Messie de Dieu ». Celui qui a été envoyé par Dieu, celui qui devait venir, qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Donc bon, nous on connaît l'histoire. Jésus après, il est allé à Jérusalem, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Nous c'est... On se dit, comment les disciples ne pouvaient-ils... Ils devaient le savoir, ils auraient dû le comprendre. Mais Jésus, il est en train là d'apporter une victoire absolument phénoménale sur la maladie, sur les difficultés. Et il dit tout d'un coup, écoutez, je vais aller à Jérusalem, souffrir, mourir. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Puis après avoir annoncé ces paroles, Jésus discute avec deux illustres personnages, deux personnages très sages, du départ qu'il va faire à Jérusalem. Et Jésus se met en route. première partie en Galilée, et il est en train de se mettre en route pour Jérusalem, l'endroit où il va souffrir et être crucifié. Il le sait, il est pleinement conscient de ce qu'il est en train de faire, et pourtant, il se met en route pour se faire condamner injustement par les hommes. En effet, la Bible souligne à de nombreuses reprises que si Jésus était un homme comme nous, il y a une chose où il était radicalement différent. C'est que Jésus n'a jamais commis le moindre péché. Et ça, c'est assez difficile à concevoir, tellement le péché est collé à nous. Et la Bible va dire, mais déjà dès sa naissance, il a été conçu par le Saint-Esprit. Il a déjà échappé au péché, dans sa conception même. Et il a vécu une vie parfaite. Et il savait qu'en allant à Jérusalem, les hommes allaient lui cracher dessus, physiquement et aussi dans la façon de parler de lui, qu'on allait dire toutes sortes de choses injustes sur lui qu'il n'avait pas faites, toutes sortes de qu'on allait chercher à le mettre à mort de façon absolument injuste. Alors quand on lit ça, on se dit, il y a un problème. Jésus, il sait où il va, et puis il prend quand même le chemin. Je sais pas, c'est un peu comme si on dit à quelqu'un, écoute, il y a une guerre, tu sais, dans ce pays, puis le champ qui est là-bas, il est truffé de mines. Si tu mets le pied dessus, hein, t'es plus là. Puis il y va, et il marche en direction de ce champ. Non mais il y a un truc qui dépasse l'entendement. Et sur le chemin, Jésus n'est pas seul. Alors il y a certainement les 12 disciples qui sont ses plus proches collaborateurs. Mais il y a aussi probablement beaucoup d'autres hommes et d'autres femmes qui ont envie d'entendre ses enseignements et peut-être aussi de voir ses miracles. « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Une belle déclaration, n'est-ce pas? Et c'est justement ce qui est attendu des hommes et des femmes, qu'ils suivent Jésus-Christ. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bienvenue dans le club des 12, on pourra l'appeler le club des 13 maintenant. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Cet homme qui a dit « Je te suivrai partout où tu iras » est averti. Suivre Jésus implique un renoncement à son toit. Le voyage ne sera pas de tout confort. Alors on va y revenir tout à l'heure. Et à chaque fois que je lis ce verset, je me sens défié. Est-ce que je suis prêt à être un vagabond sur cette terre pour suivre Jésus-Christ? Il dit à un autre, suis-moi. Avec Jésus, les deux sont possibles. On peut s'approcher de lui pour lui dire qu'on a envie de le suivre. Mais il arrive aussi que Jésus nous interpelle et nous dise, toi, suis-moi. Et c'est précisément ce qu'il fait en ce moment. Imaginez un instant cette scène. Tu viens ici à l'église, à l'Espérance, et Jésus est là et il part pour Jérusalem. Alors Jérusalem, c'est un petit peu loin. Allez, il part pour Fribourg, c'est un peu plus proche. Et puis il ne va pas prendre la voiture, il ne va pas prendre les trains, il y va à pied. Donc plusieurs jours de marche en perspective. Et puis il te dit, suis-moi. Quelle serait ta réponse? Bon, d'abord, tu n'as rien à faire à Fribourg. Enfin, je ne sais pas pour vous, moi je ne sais pas ce que j'irais faire à Fribourg. Ensuite, plusieurs jours de marche. Et puis, quand on entend ce qu'il a dit avant, qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir. Difficile, hein? Difficile. Toi, suis-moi. Puis en même temps, Jésus, il a accompli tellement de miracles. Il parle de Dieu comme nul autre. Il a des paroles qui redonnent la vie. Incroyable, quand on entend Jésus, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de se lever le matin, on a envie... Ouais, tout est possible, quoi. Il n'y a plus rien qui est impossible. C'est une occasion unique. C'est, vous savez, le genre d'opportunité qu'on n'a pas envie de rater dans une vie. On se dit, mais si un jour, le Christ me dit, suis-moi, mais c'est l'expérience à vivre, parce qu'elle sera juste incroyable. Une vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans avoir expérimenté de suivre Jésus. Être proche de Jésus. Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Une réponse qui semble bien légitime. Si son père est mort, eh bien, quoi de plus normal, de plus important que d'aller l'enterrer? Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Ça désarçonne comme réponse, n'est-ce pas? Jésus demande un engagement absolument radical. On pourrait être tenté de se dire, mais ceux qui décident de suivre Jésus, ils sont complètement barjots. Comment est-ce qu'on peut écouter un homme comme ça? Et pourtant, eh bien, des milliers d'hommes et de femmes, des millions, peut-être même des milliards, ont décidé de le suivre. Pourquoi? Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Ça prend quand même un peu moins de temps que d'enterrer un mort. Puisque Jésus va vers une mort certaine, si on le suit, on ne sait pas trop où on va, autant aller faire ses adieux avant à ses proches. Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Ça pique. Je n'ai jamais manié la charrue, mais j'imagine qu'effectivement, si même avec peut-être un cheval qui tire devant ou un bœuf, ben, il faut quand même mettre de la force et puis en regardant derrière, on ne fait pas grand-chose. Et ce matin, avant de venir au culte, peut-être que l'un d'entre nous est arrivé en se disant « Mais je suis un bon disciple de Jésus. » Puis après avoir lu ces versets, on se dit finalement, mais est-ce que c'est seulement possible d'être un disciple de Jésus? Et comme je le disais juste avant, mais il y a des milliers de personnes, des millions, peut-être des milliards, qui suivent Jésus-Christ, qui se revendiquent comme chrétiens. Comment est-ce possible? Eh bien, dans ce passage, Jésus explique comment être son disciple, comment porter sa croix et le suivre. Et dans sa première réponse, Jésus souligne une réalité. Nous sommes invités à bâtir notre vie dans son royaume. Et son royaume n'est pas de ce monde. On ne va pas pouvoir essayer de se construire une magnifique vie matérielle ici-bas et en même temps être un disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas dire que tous les disciples de Jésus-Christ seront pauvres, mais où sera notre cœur? Où sera notre demeure? Est-ce qu'on va premièrement se définir comme chrétien, en suivant Jésus, en sachant que ce qui est important pour nous est auprès de lui, ou est-ce que finalement on va s'attacher à ce qui est ici-bas? Vous allez dire, mais c'est vraiment ce que Jésus est en train de dire, on va poursuivre. Il demande ensuite, la deuxième réponse, c'est « Laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. » Alors on peut se dire, bah, peut-être qu'effectivement son père venait de mourir, mais c'est peut-être aussi une manière de dire « Mon père arrive vers de vieux jours, une fois que j'aurai fini de prendre soin de lui, je l'enterrerai, je serai libre dans mes activités. Et en fait, on sait très bien que Dieu aime qu'on prenne soin de sa famille. Il y a un verset en 1 Timothée 5, verset 8, qui dit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. » Alors, est-ce que Jésus est en train de contredire ce que Dieu dit plus loin dans sa parole? Mais non. Mais par ses réponses absolument radicales, il veut souligner une réalité des disciples. C'est qu'il faut un renoncement total à notre vie pour le suivre. Autrement dit, il faut qu'on cesse d'être au centre de notre vie. Ce n'est pas moi qui suis au centre de ma vie, c'est le Christ. Et dans le troisième passage, quand il dit « Mais celui qui manie la charrue ne peut pas regarder derrière », eh bien, il y a cette nécessité de regarder vers l'avant, sans se soucier des qu'on dira-t-on. Alors pourquoi? Mais déjà, si on se rappelle la phase de vie dans laquelle est Jésus, c'est juste incroyable. Jésus qui est parfait, bon, déjà, il aurait pu ne pas venir sur terre, il aurait pu rester auprès de son père, mais il a décidé de venir sur terre. Et pourquoi il a décidé de venir sur terre? Il a décidé de renoncer à lui-même pour aller mourir sur la croix. Et il le fait volontairement, il le fait même avec plaisir. Pourquoi? parce qu'il nous aime, il t'aime, il m'aime. Et il sait que ce chemin-là est un chemin qui le dépasse complètement parce que c'est dans les plans de Dieu. Et en fait, quand il va arriver à Jérusalem, qu'il va souffrir, qu'il va mourir sur la croix, il le fait par amour pour nous. Parce que Dieu voulait que Jésus, son propre fils, porte nos péchés, porte notre culpabilité, tout ce qui nous empêche d'être en relation avec Dieu. Il voulait que par son sacrifice, on puisse être complètement lavé. Et lui, dans son cheminement, il n'a pas fait un pas de travers. C'est juste incroyable. Moi, je disais, peut-être ce matin, on est arrivé en se disant, bon, moi, je suis un bon chrétien, puis on se dit, waouh, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je suis assez radical dans mon engagement? Mais Jésus, incroyable, jamais il a fait un pas à gauche, à droite. Il est allé droit dans la volonté de Dieu. Et ce que nous n'avons pas réussi à faire, lui, il a réussi à le faire. Et la question qu'il est en train de poser ici, c'est pas tellement soyez parfait dans votre engagement, parce qu'il sait déjà que notre engagement ne sera pas parfait. Et finalement, si notre engagement était parfait, il n'aurait pas eu besoin d'aller mourir à Jérusalem. Il est en train de dire, mais est-ce que, si tu veux me suivre, est-ce que tu es prêt à renoncer à ta vie pour aller dans le chemin que je te montrerai? Et je pense que c'était un changement de perspective qui était difficile à l'époque, mais je pense probablement qu'il est encore plus difficile aujourd'hui. Parce que pendant longtemps, pendant plein de périodes de notre civilisation et des civilisations précédentes, l'homme s'est dit, il y a une destinée plus grande qui m'attend et je dois m'inscrire dans un dessin, dans un schéma qui me dépasse. Autrement dit, les hommes et les femmes, on a un rôle sur cette terre, on a un rôle dans notre société, on a un rôle dans notre famille et on doit s'inscrire là-dedans. En fait, en suivant Jésus, on va s'inscrire dans le rôle que Dieu a prévu et on accepte de le faire. Et aujourd'hui, on est dans une société où ce schéma-là est complètement déconstruit. En tout cas, une bonne partie de la société va proposer une vision du monde qui est différente. Elle va dire, aujourd'hui, tout est matière et nous pouvons individuellement, chacun, choisir quelle est notre destinée. On peut se façonner une vie, on peut se façonner un but. Il n'y a plus personne pour nous dire, écoute, le rôle d'un mari, c'est d'être un bon mari, de pourvoir aux besoins de sa famille, d'aimer sa femme, d'aimer ses enfants. Et puis il y a une femme de dire, mais écoute, si tu veux être une épouse, ben, prends soin de ton mari, aime ton mari, occupe-toi de tes enfants. Non, la société dit, mais fais ce que tu veux. Finalement, quelle vie as-tu choisi de vivre? C'est d'aller faire la fête le soir? Mais vas-y, c'est de vivre les meilleures expériences possibles. Vas-y. Il n'y a personne dans la société aujourd'hui, la vision, ce n'est pas de dire, mais pour être un être humain accompli, eh bien, il faut avoir un Dieu absolument incroyable. Non, pour être un être humain accompli, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Il faut réussir à construire son identité et à savoir où on veut aller. Et voyez le switch que ça demande. Ça demande de dire, mais je change de vision du monde. Au lieu de me dire que je peux bâtir ma propre réalité, je décide de laisser ça de côté et de me dire que ma réalité sera celle que le Christ a choisie pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, ce changement de paradigme est hyper, hyper difficile. Et pourtant, si l'homme a bien été créé à l'image de Dieu, ce que la Bible dit, ce dont je suis fermement convaincu, alors le seul moyen d'être heureux et d'avoir une vie qui a du sens, ben c'est d'apprendre à refléter Dieu. Parce que autrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir notre destinée? On va aller où? On va faire quoi? On va finir 6 pieds sous terre, c'est tout. Mais Dieu, il a une destinée qui est juste incroyable pour chacun d'entre nous, qui dépasse de loin tout ce qu'on peut imaginer. Et la question que ce texte soulève, c'est quelle destinée est-ce que tu veux choisir? Si Jésus était là ce matin et qu'il te disait « Suis-moi », qu'est-ce que tu répondrais? Je vais faire mes propres affaires? Ou ok, je ne sais pas bien exactement dans tous les contours ce qui m'attend, mais je sais que suivre Jésus vaut la peine. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que le prochain passage dans Luc 10, c'est la mission des 70 disciples, des 70 disciples. Jésus va élargir son cercle de disciples, il va prendre 70 personnes et il va leur dire, mais allez préparer le terrain pour quand je vienne, il soit prêt. Et ces disciples-là, mais vont faire des choses incroyables. Ils vont guérir des malades, ils vont chasser des démons, ils vont annoncer le royaume de Dieu d'une façon toute particulière. Et peut-être qu'on ne sait pas exactement ce qui nous attend. Que le chemin, on le sait, ça par contre, ne sera pas toujours facile. Mais quand je disais tout à l'heure, c'est la seule expérience qui vaut la peine d'être vécue, j'en suis pleinement convaincu. Or si ce matin, tu te dis ou tu te redis, oui, vraiment suivre Jésus, c'est ce que je veux faire. Parce que je suis convaincu qu'il a les paroles de la vie éternelle, qu'il est mort pour moi sur la croix. Quelles sont les prochaines étapes? Je propose à la fin qu'on puisse prier ensemble. Vous savez, il y a déjà une étape comme ça, c'est on acte au début de l'Église, après la Pentecôte, Pierre fait un discours, et puis on lui pose cette question, c'est en acte 2. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Changement radical, c'est la première étape. Alors, je propose à la fin du culte qu'on puisse, enfin à la fin de la prédication, je vous inviterai, ceux qui ont envie, qu'on puisse prier pour dire qu'on a envie, déjà manifester envers Dieu qu'on a envie de ce changement radical. Et si c'est la première fois que vous faites cette démarche-là, ou même si ce n'est pas la première fois, mais que vous avez envie de renouveler votre engagement, ben, je vous propose peut-être de venir vers moi ou un des autres responsables à la fin du culte, qu'on puisse discuter, essayer de voir comment on peut vous accompagner dans votre cheminement. Je vous inviterai évidemment à revenir dimanche prochain. Et puis, je vais vous encourager à lire la Bible et à prier régulièrement pour apprendre à connaître Dieu, apprendre qui est Jésus. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je veux aussi vous encourager à participer à un groupe de maison, parce que les groupes de maison, c'est l'occasion de partager en petits groupes. Et j'ouvre une petite parenthèse sur les groupes de maison. J'ai eu l'occasion dans mon parcours de voir plusieurs églises, et une chose assez étonnante, c'est de voir que les gens qui sont impliqués dans l'église et qui tiennent le choc sur le long terme, parce que des fois il y a des choses un peu bizarres qui se passent dans des églises, c'est des gens qui sont dans des groupes de maison. Je ne veux pas dire systématiquement, mais on n'est pas loin, du systématique. Et puis bien sûr, Jésus, qu'est-ce qu'il dit aux personnes qui l'interpellent? Il leur dit, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Et un peu plus loin, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Donc, je veux vous inviter, bien sûr, aussi à annoncer le royaume de Dieu, à être des citoyens du royaume de Dieu. Mais bon, la vie chrétienne, ce n'est pas des coches à remplir. C'est une marche avec Jésus. Ça a des conséquences dans notre quotidien, donc vous pouvez marcher avec Jésus sans faire tout ce que je viens de dire. Il y a peut-être d'autres façons de faire. L'important, c'est de suivre le Christ. C'est ça qui est essentiel. Et même s'il nous invite à entrer dans un plan qui est assez global pour l'humanité, Dieu est assez grand pour avoir un projet personnel pour chacun de nous. Mais ça aura des impacts sur notre quotidien. Est-ce que je vais aller au culte dimanche prochain ou est-ce que je vais à un barbecue? Est-ce que je vais faire du sport ou aller à un groupe de maison? Est-ce que je vais prier ou regarder un film? Est-ce que je vais participer à la réunion de prière de l'Église? Ou est-ce que je laisse ça aux chrétiens guéris? Est-ce que je vais me taire ou est-ce que je vais parler de Jésus? Oui, on pourrait dérouler encore la liste, mais en fait, suivre Jésus a tout un tas d'implications pratiques dans notre quotidien. C'est comme je disais, s'il n'y a pas de, il y a pas de, de la vie chrétienne, c'est pas un mode d'emploi, des cases à cocher, c'est suivre Jésus. Et je pensais à cette image, quand on va à l'aéroport, on va prendre l'avion. Et puis, imaginez quelqu'un qui marche avec tous ses bagages, qui doit aller à la porte 18, puis il marche comme ça, puis il a le choix. Soit il prend le tapis roulant, puis il s'installe, puis il trace, soit il essaie de tirer tous ses bagages, il doit se reposer toutes les deux minutes, et puis il n'y arrive pas. Puis je crois que dans la vie chrétienne, on peut avoir les deux options. C'est de se dire, mais on fait les choses comme on a envie de les faire, sans forcément que ce soit ce qui fonctionne. Ou alors on se dit, mais il y a tellement de gens qui font partie d'un groupe de maison et ça avance. Il y a tellement de gens qui vont tous les dimanches au culte et leur vie, elle avance. Tellement. Puis on se dit, mais dans la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Ok, moi je vais prendre le tapis roulant. Mais en fait, c'est pas juste une question, est-ce que je vais à un barbecue ou est-ce que je vais au culte? Je veux dire, un dimanche, qu'est-ce que ça sur un dimanche dans l'année, qu'est-ce que ça change que tu aies faire un barbecue ou que tu aies au culte? C'est pas ça qui va radicalement changer ta destinée. Mais ce serait bête quand même d'arriver devant la porte 18 et que l'avion soit déjà parti. Et puis en fait, notre vie, elle est longue. On espère. On ne sait pas. Peut-être qu'on sort de l'église et quelque chose arrive, ça on ne sait pas. Mais a priori, notre vie, elle est longue. C'est une course. Est-ce qu'à la fin de notre vie, on sera devant la porte 18? Et c'est ça l'enjeu. Et moi, je me dis, mais j'ai envie d'être prêt. Hein, quand l'avion il va partir, j'ai envie d'être au bon endroit. Et s'il faut, autant prendre le tapis roulant. Ce sera plus confortable et je suis sûr d'arriver à l'heure. Alors je vous laisse avec ces exhortations, puis comme je vous l'ai promis, je propose qu'on puisse prendre un temps de prière. Et puis pour ceux qui le souhaitent, eh bien peut-être pouvoir, c'est un peu courageux, hein, mais vous lever et puis dire, mais oui, ce matin, j'ai envie de renouveler mon engagement avec Dieu, ou j'ai envie de prendre cet engagement avec Dieu pour la première fois. Bien sûr, ça a des conséquences après dans notre vie. Donc si vous n'avez pas envie, inutile de vous lever. Et si vous avez envie, eh bien je vous propose de vous lever. Ma Seigneur, on a envie de se placer devant toi. Et tu vois cette possibilité que nous avons maintenant de répondre à ton appel, de te suivre. Et on a envie, Seigneur, de prendre en considération tout ce que cela implique dans notre vie. C'est juste extraordinaire de savoir que tu as tout laissé pour venir nous sauver. Seigneur, tu vois ce qui se passe dans le cœur de chacun. Et je te prie que chacun puisse se placer devant toi et prendre une décision, non pas devant les hommes, mais devant toi. Aide chacun à cheminer ensuite, pendant la semaine, pendant les mois qui viennent, pour s'approcher toujours plus de toi. Aide-nous dans notre engagement, on sait qu'il ne sera pas parfait. Mais si notre engagement était parfait, aussi radical que tu le demandes, on n'aurait pas besoin que tu sois venu mourir pour nous. Mais nous avons besoin de ta grâce sur ce chemin. Seigneur, viens nous réveiller, viens nous remplir par ton esprit pour que nous soyons des annonciateurs du royaume, des citoyens de ton royaume. Merci d'être venu jusqu'à nous. Amen.